25 février 1978, conférence du père Marc-Dominique Philippe.
Les troncs, parce que paraît-il qu'il y avait un grand tronc. Alors déjà la fois dernière, on l'avait dit, il y a un tronc. Il faut absolument compléter cela. La dernière fois, l'Esprit Saint le poussait de regarder la question du sacerdoce. Pas hésiter à placer du point de vue de la théologie et de la philosophie, enfin, les deux se tiennent dans la réflexion que nous faisons. C'est d'essayer de comprendre la place de ce que représente la volonté dans notre vie humaine. Alors, si vous voulez, on le verra d'abord au point de vue philosophie du vivant, et puis nous reprendrons tout l'épanouissement de la volonté dans le point de vue des actes humains, donc le point de vue moral. C'est important, je crois, de bien saisir. Et puis, nous reprendrons au point de vue théologique tous les problèmes qui existent entre le point de vue de Dieu, et puis par la grâce, nous redonne une volonté perdu par le péché. C'est évident que c'est la volonté qui a été le plus atteinte par le péché. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne faut jamais oublier cette parole de notre Seigneur, parce qu'elle est quand même extrêmement significative et elle nous montre bien ce que nous ressentons tous les jours, qu'il y a en nous, du côté de notre psychologie, et de notre psychologie volontaire, c'est-à-dire du côté de notre volonté, de nos efforts, qu'il y a de grandes failles. Quand saint Paul parle qu'il y a en lui deux hommes, un qui veut le bien et l'autre qui fait le mal. Je crois qu'il y a aussi deux femmes en lui de temps en temps. Disons. Il y en a une qui est reliée à Marie, c'est celle-là que je dois regarder en premier lieu, et puis l'autre qui est reliée à elle. Et c'est vrai que c'est du côté volontaire, c'est du côté de la volonté que le combat se fait. L'intelligence a cet immense privilège que de fait elle est restée intacte, qu'elle n'a pas été atteinte par le péché. C'est très curieux, c'est très important, ça. On sera essayé de le comprendre au terme, parce que c'est une des grandes perspectives de l'Église, ça, de bien montrer que le péché n'a pas atteint l'intelligence. Le péché atteint l'exercice de l'intelligence, parce que l'exercice de l'intelligence se fait toujours par le point de vue de la volonté, nous allons le voir. Alors on n'est pas assez attentif, on est distrait, on se laisse prendre. Depuis notre plus jeune âge, c'est comme ça. Et c'est parce qu'on s'est laissé prendre à droite ou à gauche, c'est pour ça qu'on n'est pas plus avancé au point de vue intelligence. N'est-ce pas ? La paresse, c'est une chose terrible, n'est-ce pas ? Qui nous empêche d'être toujours attentifs à ce que Dieu veut. Il y a la paresse spirituelle, il y a la paresse intellectuelle, il y a la paresse, tout simplement, du petit bonhomme qui ne veut pas faire d'efforts, qui a mieux de faire à sa fantaisie. Et alors, qui, à ce moment-là, ça donne n'importe quoi. Ça, c'est la conséquence du péché. C'est très curieux que c'est à l'égard de la volonté qu'on voit le plus les ravages du péché. Ça, c'est très net. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de comprendre au plan philosophique ce qu'est la volonté pour voir ensuite, dans une perspective chrétienne, dans une perspective de foi, de voir comment le péché est installé dans la volonté, pas dans l'intelligence. Le péché est toujours volontaire. Et l'orgueil, même s'il prend comme matière le point de vue de l'intelligence, l'orgueil est quand même formellement un acte volontaire. Et ça s'exprime toujours par le fait qu'on ne veut pas obéir. Hein, parce que c'est là où s'exprime le mieux notre mauvaise volonté. Non servia. C'est très net. On s'oppose. Alors, c'est assez important de saisir dans la grande structure de l'homme, ces deux grands aspects de l'esprit de l'homme, l'intelligence et la volonté. C'est les deux grands aspects. Alors ils sont toujours très très liés, nous le verrons, toujours très très liés. On ne peut pas les séparer, mais il faut les distinguer. Il faut à tout prix distinguer les deux. Parce que si on ne distingue pas le point de vue de l'intelligence et de la volonté, il y a des tas de choses qu'on ne comprend plus. On limite terriblement l'intelligence. Subordonner l'intelligence au volontaire, c'est terrible. Et d'autre part, il faut bien reconnaître que notre intelligence ne pourra se développer que grâce à l'appétit volontaire. Il faudra essayer de saisir ces problèmes-là. Alors, comme de coutume, hein, je vous demande tout simplement, quand vous avez des questions, de les mettre sur un petit papier. Je demanderai à celles qui sont compétentes de recevoir ces papiers, de les trier, et puis de faire un petit résumé pour voir les grandes questions importantes. C'est que pour gagner du temps, je dis ça, c'est pour essayer de... Voyons d'abord dans la perspective de la philosophie humaine. Il faut bien respecter les différents changements de vitesse. Alors, nous sommes dans la perspective de la philosophie du vivant. Dans la perspective du vivant, nous avions vu déjà qu'il y a différents aspects de la philosophie du vivant, qu'il y a différents degrés de vie, ça fait rien, différents degrés de vie, la vie végétative, la vie animale et sensible, et la vie de l'esprit. Je crois que c'est toujours très important de regarder ces trois aspects qui nous donnent la complexité de notre vie humaine. Tout le monde est d'accord aujourd'hui. Le biologiste nous montre la complexité de la vie humaine. Le biologiste, qu'est-ce qu'il saisit en premier lieu? C'est évidemment le point de vue de la vie incarnée, de la vie dans le point de vue de la vie liée au corps, liée au sensible. C'est la seule vie qu'on ne pouvons mesurer. Alors, on voit le point de vue de la vie végétative comme fondement. La vie végétative est un fondement. Ça ne reste que de devoir respecter les lois profondes de notre vie végétative. On ne peut jamais nous en dispenser complètement. On a mal à l'estomac, on sait bien que ça peut avoir d'immenses conséquences pour le reste de notre vie. Bon, alors nous avions vu ce que c'est que la vie végétative, très rapidement. Nous avons vu ensuite ce que c'est que la vie animale. La vie animale, c'est toute notre vie passionnelle et notre vie sensible. L'animal, c'est celui qui est capable de sentir, c'est celui qui sent. Nous avons 5 possibilités de sentir au niveau de la connaissance, les 5 sens, et tout l'appétit passionnel qui est en nous, qui forme notre psychisme. Notre psychisme est formé par nos passions. Et les passions proviennent des sens externes et de l'imaginaire. Et on pourrait dire que le psychisme qui est en nous est formé par tout ce terrain extrêmement mouvant que représente l'imaginaire et le domaine affectif. Quand même autre chose, se représenter, autre chose, ressentir affectivement. Et nous avions analysé à ce moment-là, rapidement, nous avions quand même analysé à ce moment-là, les 11 passions que nous donne saint Thomas, du concupiscible et de l'irascible. C'est quand même toujours très important. Vous savez, il n'y a pas eu d'analyse de la passion plus parfaite depuis. Et ça, je l'ai entendu dire de psychanalystes que je connais bien, auxquels j'avais fait l'exposé des 11 passions telles que nous donnait saint Thomas. C'est quand même curieux qu'un trésor aussi grand était complètement oublié. Et il ne faut pas oublier, d'autre part, que saint Thomas est le premier qui ait fait un traité des passions à l'intérieur de sa somme théologique. Jusque-là, la passion était laissée un peu de côté, en disant, c'est pas très intéressant, ça n'intéresse pas. Saint Thomas est le premier qui a fait ça. Et pourquoi l'a-t-il fait? À cause de son regard sur le Christ. C'est très intéressant de voir ça. C'est pour voir que dans le Christ, il y avait des passions. Et pour essayer de comprendre les passions dans le Christ. Donc essayer de comprendre ce qu'on dirait aujourd'hui, si vous voulez, comment le Christ avait tout notre conditionnement humain. Et que ce conditionnement humain, il l'a vécu pleinement et totalement. Et c'est vrai, notre conditionnement humain, il est passionnel. Il est passionnel. C'est ce qu'on voit le mieux, la première chose qu'on découvre en vie commune. C'est la première chose qu'on découvre, c'est que nous avons des réactions
de sympathie, d'antipathie, qui sont quelquefois très violentes, qui peuvent remonter à un arrière-grand-père. Enfin, parce que là, il y a tout l'atavisme qui joue, ça c'est sûr. La première éducation joue énormément. Et alors en nous, notre psychisme, il est double. Il est le concupiscible et il est les racines. Et il y a les deux dans le même homme, hein. Faut pas l'oublier. Mais l'un est plus développé chez l'un que chez l'autre. Le concupiscible, c'est celui qui désire accaparer le bien sensible. Le ronron du chat auprès du feu. Les gens qui aiment beaucoup ça. Vous savez, le moine dans son fromage, hein, c'est le concupiscible. Ça. Il a découvert un peu, là où il y avait le moins de difficultés, il n'aime pas de lutter, par définition il n'aime pas de lutter. Alors il est très heureux d'avoir le bien sensible immédiatement proche de lui. L'irascible, au contraire, c'est la passion qui veut dominer, qui veut être victorieux, qui aime d'être victorieuse. C'est la passion du tragique. Alors quand l'irascible est très développé chez quelqu'un, cette personne aime de se mettre toujours dans des situations extrêmement difficiles, des situations tragiques. Enfin, le tragique n'existe qu'en fonction de nous, vous savez, il n'existe pas avant qu'on se dise « Oh, je suis tombé dans une situation tragique ». Attention, c'est peut-être vous qui l'avez créé. Parce que ça peut très bien arriver, c'est que avant, tout était paisible, il suffit quelquefois d'une seule personne pour que ce soit tragique. C'est bon, pourquoi ? C'est comme ça. À partir de ce moment-là, c'est tragique. Tout simplement parce que la passion de l'irascible, inconsciemment, c'est comme ça, la passion de l'irascible, inconsciemment, veut qu'on domine, qu'on soit victorieux. Vous comprenez bien qu'on est victorieux que s'il y a une lutte. S'il n'y a pas de lutte, on ne peut pas être victorieux. C'est impossible. Alors on aime de créer des luttes, des oppositions. On met exprès les choses en pleine lumière, les oppositions. Et alors on aime de voir cela. C'est un beau spectacle, beau feu d'artifice. Et puis on voit que là-dedans, on joue un rôle important. C'est qu'on arrive à deviner. En définitive, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans l'irascible, on soit victorieux. L'irascible s'exprime dans la colère. Là, vous voyez, tout le jeu du psychisme très important des passions qui sont en nous, sous-bassement affectif qui est en nous, il y a les deux sous-bassements que nous allons voir, instinctif et passionnel. Instinctif et passionnel. Le sous-bassement instinctif, il est gros, c'est l'être sauvage qui est en nous. Ça ne bouge pas beaucoup, vous savez, ça n'a pas beaucoup bougé. Tandis qu'au contraire, le sous-bassement passionnel, il se modifie énormément selon le milieu dans lequel on se trouve. Et il se modifie énormément selon les époques. Il n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Pas du tout. Ça a changé beaucoup. C'est intéressant du reste de voir les ingrédients différents. N'est-ce pas, de voir que ce n'est pas du tout le même. Ça a beaucoup modifié, ça. Et c'est vrai, c'est tout ce que représente le soubassement psychologique qui est en nous, l'amour passionnel, la haine, parce que la haine joue un très grand rôle. Il faut bien qu'il y ait les deux contraires, hein, l'amour et la haine, pour qu'il y ait du tragique. Alors à côté de la haine, il y a la jalousie, la grosse jalousie, et la haine noire, qu'on n'avoue jamais, quoi. La haine noire souterraine. Et alors, au-delà, la colère. Et dans l'amour et la haine, on ne joue pas de rôle. Mais dans la colère, on joue un rôle. Parce qu'on détruit l'ennemi, on détruit le mauvais, pour rétablir l'ordre. Alors on est là comme celui qui rétablit l'ordre. Donc il y a tout ce domaine du psychologisme en nous qui est très important, qui forme tout notre conditionnement. Il ne s'agit pas de s'y arrêter indéfiniment, c'est évident. Il s'agit de temps en temps, n'est-ce pas, d'être suffisamment lucide pour comprendre qu'il y a en nous cela, c'est évident. Vous ne pouvez pas le mettre à la porte en disant « je n'entrerai au... » Dans ma vie monastique, il faut à tout prix laisser tomber complètement tout point de vue passionnel. Et puis alors, je n'entre qu'avec ma vie végétative en la réglant du reste fortement, surtout pendant le temps de carême. Je la règle fortement, tu vois, je la mets vraiment à un degré de le plus grand ascétisme possible. Et puis, il y aura la vie spirituelle. on a oublié entre deux que toujours, c'est les intermédiaires qui jouent un rôle quelquefois très très important. Je ne dis pas essentiel, essentiel, pas primordial. Donc, vie végétative, hein, je la mets au-dessus, c'est pas du tout parce qu'elle est première, elle est première, elle est fondamentale. Deuxièmement, la vie animale, j'aime bien qu'on l'appelle la vie animale après tout. C'est la vie animale que vous. C'est commun avec les passions, avec les passions des animaux. Je relisais l'autre jour dans Sénèque à propos de la colère, le Déira, il compare la colère, un homme en colère, avec certains animaux, en colère. Et on comprend très bien. Et c'est très vrai que les animaux ont des passions. Alors la différence, c'est que chez les passions, chez l'homme, sont dépassées par autre chose, tandis que chez l'animal, elles sont reliées indirectement avec les instincts. Donc ici, au niveau végétatif, vous avez votre vie instinctive, les instincts. Au niveau animal, vous avez les passions. Je regarde ça au niveau affectif, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. Troisième degré de vie, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est à la fois la vie de l'intelligence, et la vie de la volonté. Et saint Thomas fait toujours le parallélisme entre ces trois ordres d'appétit. Et je crois qu'il a parfaitement raison. C'est très intéressant de voir cela. Et je dirais que toute la psychologie moderne confirme cela. C'est qu'il y a de fait en nous trois zones d'appétit. Un appétit instinctif, absolument déterminé. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir des possibilités de le modifier d'une certaine manière. Mais en lui, il est déterminé, en lui-même. Il est déterminé. Déterminé à Dounoum. Il y a tout le domaine affectif de la passion. Alors lui est essentiellement anarchique. La passion est essentiellement anarchique. Et puis, il y a le domaine de l'appétit volontaire, de l'appétit spirituel, qui est la volonté. Comprenez bien, hein, on a posé ces trois degrés de vie à partir de nos opérations. À partir de nos opérations vitales. On a regardé nos opérations vitales, on a vu la diversité de ces opérations vitales, et on a posé à partir de là trois degrés de vie. C'est facile à comprendre. Hein. Réfléchissez sur toutes les opérations que vous avez durant votre journée. Bon, il y a nécessairement le fait de dormir et de se réveiller. Ça fait fondamentalement notre vie végétative. Si nous n'avions pas notre vie végétative, on ne serait pas obligé de dormir. Si vous pouviez mettre entre parenthèses votre vie végétative, vous ne dormiriez plus, vous ne resterez pas obligé de manger. Ce serait magnifique. On gagnerait beaucoup de temps. Donc on ne dormirait pas, on ne mangerait pas. Donc, mise entre parenthèses de la vie végétative. Ne le faites pas, hein, parce que ça, ce serait un manque d'obéissance, hein, au sens très très fort. Mais on a toujours un peu cette tentation-là, surtout au début de sa vie monastique. Oui, parce qu'on pense qu'il y a les ailes qui poussent. Alors, si les ailes poussent, on est angélique, on est de la race angélique. C'est très vrai, la vie monastique nous met de la race angélique. Mais c'est des anges très particuliers, que voulez-vous. Il faut reconnaître que nous sommes des anges avec la vie végétative. Alors, la vie végétative à cause du corps, la vie dans le corps, c'est cette chose tout à fait spéciale. C'est très enraciné, ça. C'est très déterminé. C'est la seule vie qui est en nous substantielle. Donc, ce sont des opérations substantielles, celles-là. Se nourrir, dormir, bon, on le sait. C'est des opérations qui s'imposent à nous. Très déterminé. Bon, nous avons tous possibilité de réfléchir sur nos sensations. On voit, on regarde, c'est évident. Et l'imagination. Et la passion. C'est assez facile de comprendre que nous sommes des êtres passionnés. Là encore, hein, on est des êtres passionnés. Il faut accepter qu'on est des êtres passionnés. Il faut accepter que le voisin est passionné d'une façon autre que nous. Parce qu'il n'est pas né le même jour que nous. Et alors, du fait même qu'il n'a pas le même, il a été éduqué autrement, il y a pas de choses différentes. Donc nous sommes des êtres passionnés. Les passions, nous pouvons facilement les saisir. Notre vie spirituelle, nous pouvons aussi la saisir assez facilement. Nous pensons, nous méditons,
la méditation et la pensée. C'est bien le développement de la vie de l'intelligence. L'intelligence pense, l'intelligence... Ça veut dire la méditation que nous rêvons exige de poser en nous une faculté, une puissance qu'on appelle l'intelligence. Et puis, il y a en nous, alors c'est ça qu'il faut détecter maintenant, des actes volontaires. Vous voyez, nous essayons de nous dominer. La volonté se détecte en premier lieu de ce côté-là. Nous essayons de nous dominer. Nous essayons de choisir. Il y a le choix, il y a la... des actes où nous sommes obligés de poser certains moments. Nous obéissons. Nous voulons obéir au moins. Nous voulons obéir. Et nous le disons bien. Nous voulons obéir. Il y a en nous, vous voyez, cette volonté profonde d'avancer, de progresser. Alors, on détecte en nous tout un champ particulier qu'on appelle le champ du volontaire. Tout ce qui est en nous volontaire. Et puis il y a des choses qui sont involontaires. Il faut toujours bien préciser le volontaire et l'involontaire. Ce n'est pas toujours du reste très commode. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui dépendent de nous, c'est que nous avons voulu entrer dans la vie monastique, ça dépend de nous. Ah, ça, vous avez été téléguidé par Dieu, mais ça dépend de nous. Nous avons quand même accepté. Moi, si quelqu'un entrait en disant « je ne sais pas pourquoi je suis là », je crois que Dieu m'a conduit là, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Et que ça restait indéfiniment, on dirait, attendons, c'est pas encore tout à fait mûr. Attendons, que ce soit vraiment volontaire. Nous prenons en main notre vie. Prendre en main sa vie, c'est la faire passer au volontaire, justement. Alors, ce volontaire est plus ou moins fort en nous, mais au fond, c'est le volontaire. Et puis, il y a des choses qui ne dépendent absolument pas de nous. Ça n'est absolument pas nous, par exemple. Je ne sais pas quoi. On glisse et on se fait mal à notre corps, on se casse le pied, c'est pas volontaire. On a dit, ah, vous auriez pu avoir un peu plus de prudence. Vous auriez pu faire attention. On pourra dire ça, c'est sûr, après coup. Mais sur le moment même, c'est absolument dans notre volonté. Recevoir telle ou telle parole de tel ou tel, n'est-ce pas ? C'est en dehors de notre volonté. On pâtit. Donc il y a des actes volontaires et des actes involontaires. Vous voyez, du moins, il y a des événements volontaires dans notre vie et des événements qui sont en dehors de notre volonté. Très important. Chez les stoïciens, c'est la distinction la plus fondamentale qu'il faut faire. Nous y reviendrons, parce que quand on parle de la volonté, on parle toujours des stoïciens. Parce que les stoïciens sont quand même les philosophes de la volonté par excellence. Et c'est même quelquefois un peu trop loin. Mais c'est quand même intéressant de voir ça. C'est eux qui ont poussé énormément le point de vue volontaire. Eh bien, chez eux, la première distinction qu'il faut faire, c'est ce qui est dans notre pouvoir et ce qui n'est pas dans notre pouvoir. C'est la seule manière d'arriver à une paix intérieure. C'est de voir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est très important, parce que ça fait comprendre le point de vue de la volonté, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. C'est très vrai que dans notre vie, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, comme le vous. Vous allez vous agacer devant quelque chose qui ne dépend pas de vous. Vous allez dire, écoutez, non, acceptez, ça ne dépend pas de vous. Ne vous agacez pas par ça. Si vous pouviez changer quelque chose, ce serait tout à fait différent. Alors vous vous changeriez, vous comprendriez, mais si ça ne dépend pas de vous. On comprend très bien cette attitude-là. C'est une attitude philosophique très, très importante d'essayer de discerner la profondeur des choses qui dépendent de nous. Et pour eux, dans leur perspective à eux, si je découvre ce qui dépend fondamentalement de nous, je rejoindrai la volonté de Dieu. C'est du reste très beau. Il faudra voir dans quelle mesure c'est vrai. Parce que c'est intéressant de voir que c'est là où on rejoint le point d'impact avec la volonté de Dieu. Tout de suite. La volonté, si on la pousse jusqu'au bout, ben, il faut nécessairement découvrir qu'il y a quand même un lien avec la volonté de Dieu sur nous. Si Dieu existe, il y a quand même quelque chose de très particulier, plus immédiat que dans l'intelligence. Si j'ose dire, je dirais que Dieu est plus proche de notre volonté que proche de notre intelligence. Vous voyez ? D'une certaine manière, c'est vrai. C'est très très vrai. Dieu est plus proche de notre volonté que de notre intelligence. Alors, il s'agit de comprendre maintenant, c'est ce que nous allons essayer de faire, comment, en face de tous ces actes qui sont volontaires et qui dépendent de nous, que représente cette puissance, cette dynamis qu'on appelle la boulesis, la volonté.
Oui, pour relire au grec, hein,
à la boulesis. La boulesis qui a été traduit par vouléo, soit vouloir, qui a été traduit par voluntas. Volonté. Et en français, volonté. La volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté? Alors posons-nous tout de suite la question, à partir de ces différentes activités, il faut toujours rester devant ces activités. Hein. Donc réfléchissez sur le fait que vous êtes attentif. Attentif à écouter un cours. C'est un acte volontaire. Dès que votre volonté diminue un tout petit peu et que vous commencez à avoir le poids du sommeil, vous n'écoutez plus. Vous n'êtes plus attentif. Votre volonté sombre dans l'imaginaire. Ça arrive de temps en temps, non ? Ça arrive. Non, même avec la meilleure bonne volonté qui soit, nous sombrons parce que nous sommes très fatigués. Alors nous sombrons à ce moment-là. Nous sommes plus attentifs. Être attentif, c'est, je crois, un acte volontaire extrêmement profond d'être attentif. Être capable d'être attentif à un autre qui nous parle. Être capable d'être attentif aux événements. Oui, c'est un acte volontaire. Je dis ça parce qu'il faut toujours que l'acte volontaire soit présent dans l'analyse que nous faisons. Autrement, ce sera quelque chose d'abstrait. Et il faut que ce soit toujours présent. Le volontaire, il est là, hein, nous touchons. Je vous parle en faisant un acte de volonté. Autrement, je m'endormirais. Donc, c'est un acte de volonté. Et on le sent très bien. Quand on est très fatigué, on sent très bien qu'il faut tenir par la volonté. Quand on n'est pas très fatigué, on le sent moins. Mais dès qu'on est fatigué, la volonté est là, pour reprendre du reste qui explique comment, à la fin de la journée, on est plus tendu. Parce que la volonté exige qu'on soit plus présent. Vous voyez, quand vous êtes dans le travail, dans la prière, et ainsi de suite, la volonté est toujours présente. Et plus vous vous sanctifierez, plus la volonté sera présente. Pas possibilité de se sanctifier sans la volonté. Donc c'est quand même très très important dans notre vie. Hein, nous l'avons toujours tout le temps, la volonté. Elle est là, présente. Tout le temps. Alors, nous allons maintenant étudier, à partir de ces actes multiples de volonté, penser au choix, penser à l'attention, penser au fait de vouloir être tendu vers, volontairement. Pensez à tout cela. Essayons de comprendre maintenant qu'est-ce que c'est que la volonté, qu'est-ce que c'est que cette boulesis, cette dynamis que nous posons. Alors, ici, je vous donne tout de suite hein, la grande vision de saint Thomas. Je crois que c'est ça que vous me demandez en premier lieu. Parce que je ne veux pas faire une historique sur la volonté à travers le temps. C'est intéressant, très intéressant de voir comment, de fait, on est arrivé à cette conception. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous regardons tout de suite hein, la volonté telle qu'elle est vue dans saint Thomas. Je vous montrerai ensuite telle qu'elle a été vue dans Descartes. C'est quand même important, puisque nous sommes toujours un peu dépendants de Descartes, n'est-ce pas ? Même si que nous voulions ou ne voulions pas. Ça fait partie du contexte historique dans lequel nous avons respiré. Mais là, nous sommes toujours un peu sur les bords cartésiens. Alors, la volonté pour saint Thomas, donc la voluntas, c'est donc cette puissance qui nous met en contact avec le bien. C'est très important de comprendre l'objet propre de la volonté, c'est le bien. Autrement dit, la volonté nous relie au bien. Elle nous relie au bien. Elle nous met ce lien. Nous subissons l'attraction du bien. C'est une très belle manière de comprendre ce que c'est que la volonté. Subir l'attraction du bien. Et dès qu'on subit l'attraction du bien, la volonté a cette réaction première, cet appétit spirituel à cette réaction première, c'est l'amour. Le premier acte de la volonté, c'est l'amour. L'amour volontaire. L'amour spirituel. Vous voyez qu'il y a un amour au niveau passionnel et il y a un amour au niveau volontaire. Ça, c'est très important de voir ça. Il y a deux degrés et c'est le même mot. On emploie le même mot. C'est pas pour rien. Parce que des deux côtés, c'est l'attraction du bien. Mais d'un côté, c'est l'attraction du bien sensible.
Alors, l'attraction du bien sensible suscite en moi un appétit sensible, une passion sensible. De l'autre côté, au contraire, c'est un bien spirituel.
Le bien spirituel, vous voyez bien ce qu'il est. Hein.
Le bien spirituel, pour nous, c'est toujours un bien personnel.
C'est toujours un bien personnel.
Seul un bien personnel est un bien spirituel. Seule la personne, autrement en dehors de là, en dehors de la personne, vous avez des biens sensibles. Ou bien vous avez un bien idéal. Hein. Un bien idéal qui est un idéal de vie, par exemple.
Un idéal de vie n'est pas un bien personnel. Un idéal de vie peut être quelque chose, nous le reverrons tout à l'heure, ce que c'est, parce que c'est important de comprendre comment un idéal peut susciter en moi un amour romantique.
C'est ça ? Qui n'est pas l'amour au sens le plus fort, avec bien l'intervention de l'imaginaire.
Tandis qu'ici, c'est ce lien de la volonté à l'égard d'un bien spirituel, à l'égard d'une personne. Un bien spirituel, c'est ce qui est capable de m'attirer. Le bien, c'est ce qui m'attire.
La fameuse définition, c'est pas une définition, mais cette fameuse chose qu'Aristote dit, que saint Thomas a repris, le bien, c'est ce que tous désirent.
Vous comprenez bien qu'on ne le définit pas en disant ça. Le bien, c'est ce que tous désirent. Mais on montre l'effet du bien. Le bien, je ne peux pas le définir. Qu'est-ce que c'est que le bien ? Le bien, c'est ce qui est capable de m'attirer. Et à différence de la perfection, il y a des gens parfaits, ils sont parfaits, on ne peut rien leur reprocher, mais ils ne sont pas bons. La bonté, c'est ce qui attire. La bonté suscite une attirance, suscite un amour. Il y a du pain parfait et du pain bon. Pas la même chose du tout. Disons, il est parfait, il ne manque rien, je ne peux pas le critiquer. Et il est bon, il est succulent. Hein. Alors là, ça suscite une passion, hein, c'est parce que c'est du pain, donc c'est un bien sensible. Mais c'est pour vous faire comprendre ce que c'est que le bien. Le bien, ça ne peut pas se définir. C'est une de ces réalités tout à fait premières, très très fondamentales. Je ne saisis le bien que par ce qu'il réalise en moi. Il suscite en moi un amour. Alors, là tout de suite se pose ce problème très important, c'est que ce bien spirituel, cette personne, qui suscite en moi un amour, et qui est le premier acte de la volonté. Oui, alors là, c'est très très important. Parce que nous, à la suite de Descartes, on ferait toujours un petit peu la distinction de Pascal, la volonté et le cœur. Vous voyez que si je suis dans un langage plus ancien que Descartes, si je reprends la grande terminologie des grands théologiens du Moyen-Âge et au fond des Pères de l'Église, et de la philosophie grecque, c'est que la volonté, c'est le cœur. C'est le cœur, la volonté. C'est le cœur spirituel. C'est le cœur spirituel. Le cœur spirituel, il est source d'amour. C'est ça le premier moment du cœur spirituel. Il est capable d'être attiré par le bien. C'est ce qui est capable d'être attiré par le bien. Donc, ce qui suscite en moi un amour spirituel, c'est l'amour spirituel, c'est justement mon cœur, hein, ma grande capacité d'aimer. La volonté, c'est votre capacité d'aimer. Et d'aimer d'un amour spirituel. Cet amour spirituel est donc quelque chose de tout à fait foncier en vous. C'est cette complaisance à l'égard du bien. Quand on aime un bien spirituel, on se complaît en lui. On s'approche de lui, on s'adapte, la coaptation, on se connaturalise à lui. L'amour est donc cette réaction profonde au plus intime de moi, c'est ce qui est plus intime en moi, cet amour spirituel. C'est cet amour, cette réaction profonde en face d'un bien spirituel qui me dit, je me laisse prendre. Je me laisse attirer. Alors, il faut bien comprendre que cet amour spirituel qui naît à l'intérieur de la volonté, donc à l'intérieur de mon cœur spirituel,
Et le langage des spirituels dira le cœur. Le langage du théologien dira la volonté. Il s'agit de s'entendre, il ne s'agit pas de se quereller sur les mots. Il s'agit de comprendre que l'appétit spirituel, la volonté, a comme premier acte l'amour. Premier acte, premier moment, c'est peut-être cet amour spirituel. Cet amour spirituel présuppose la connaissance, ce qui est très important de voir tout de suite. L'intervention tout de suite de la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire de l'intelligence. Pour aimer le bien spirituel, il faut le connaître. C'est ce qu'on dira spontanément. Pour aimer un bien spirituel, il faut le connaître. Alors, quel est le rôle exact de la connaissance dans cet amour premier? Ce qui est très important à bien saisir. Quel est le rôle de la connaissance dans cet amour premier? Nous l'avions déjà vu, mais nous le reprenons d'une autre manière ici. Et c'est bien, parce que c'est des notions qui sont tellement fondamentales dans notre vie, que le tout petit déséquilibre qu'on fait là-dessus a d'immenses conséquences. Il ne peut pas y avoir d'amour spirituel sans connaissance. Donc sans l'œil intérieur. Parce que l'intelligence, c'est l'œil intérieur. Il ne peut pas y avoir. C'est impossible. L'amour demande la connaissance du bien spirituel. Mais faisons bien attention, cette connaissance est une condition nécessaire à l'amour. Mais cette connaissance ne détermine pas cet amour. Alors ça me semble capital, à bien saisir cela. La connaissance qui est exigée pour susciter en moi un amour spirituel, cette connaissance est une condition nécessaire, mais n'est pas une détermination. Qu'est-ce qui détermine l'amour? C'est le bien. Le bien connu, c'est le bien connu, c'est le bien que je connais, c'est le bien que je reconnais, c'est le bien qui m'attire. Et donc, c'est le bien lui-même qui détermine, qui spécifie mon amour en l'attirant. Et vous voyez là, le bien joue le rôle de fin, fameuse finalité. C'est à travers le bien qui m'attire et qui me détermine que je découvre la fin. Nous allons voir tout de suite après. Mais je le cite tout de suite parce que c'est quand même important. C'est au niveau de la volonté, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui spécifie, qu'est-ce qui est l'objet de la volonté? C'est le bien, qui est en même temps la fin de la volonté. Eh bien, cette connaissance nécessaire pour être attiré par le bien, cette connaissance nécessaire n'est qu'une condition, elle ne détermine pas. Alors quand je dis condition, faisons attention, condition dans le sens où l'exercice même de mon amour ne pourrait pas exister autrement. Et donc la qualité de connaissance que j'ai à l'égard du bien spirituel n'est pas indifférente à mon amour. Je veux dire, la connaissance est uniquement une condition et donc ça n'a pas d'importance, il suffit de connaître un tout petit peu. Ah, pas du tout. L'unité, la symbiose entre l'intelligence et la volonté, entre l'intelligence et le cœur, cette symbiose première est absolument fondamentale. Il y a un lien très très profond entre l'intelligence et le cœur. Sans aucune rivalité. L'intelligence est au service de l'amour. Dans ce premier moment, premier moment fondamental, l'intelligence est au service de l'amour. Je reconnais qu'il y a un bien spirituel. Je reconnais qu'il y a une personne, qu'il y a un bien qui est autre que moi. Il faut une connaissance réaliste qui reconnaît que ce bien me dépasse. Que ce bien est autre que moi, et donc qu'il est capable de m'attirer, qu'il est capable de me perfectionner, qu'il est capable de susciter en moi un amour qui me fasse sortir de moi. C'est grâce à la connaissance que je reconnais que l'autre, qui est ce bien, et qui est dans la mesure même où il est mon bien, il est autre que moi,
est capable de me perfectionner, capable de m'attirer, capable de susciter en moi cet amour vers lequel, qui me permettra de sortir de moi, puisque cet amour spirituel a comme qualité première d'être extatique. L'amour est extatique. L'amour nous fait sortir de nous pour aller vers celui qu'on aime. L'amour nous fait sortir de nous pour nous oublier. C'est ça qui est extraordinaire dans l'amour. Il n'y a plus que le bien qu'on aime qui est présent. Vous voyez la très grosse différence avec la connaissance. La connaissance me maintient dans l'immanence. Et l'amour me fait sortir de l'immanence pour rejoindre l'autre. Et je ne rejoins l'autre vraiment que grâce à l'amour. Connaître quelqu'un, connaître le bien, n'est pas sortir de moi vers lui. Dans la connaissance, je demeure au-dedans de moi-même. Très curieux, ça. La connaissance intellectuelle reconnaît qu'il y a un autre dans le jugement d'existence. Elle reconnaît qu'il y a un autre, mais elle ne peut pas le rejoindre comme autre. Elle ne peut le rejoindre comme autre, donc comme quelque chose qui me transcende, que dans la mesure où je l'ai. C'est pour ça qu'on dira que l'amour est extatique. On ne dira jamais que l'intelligence est extatique. C'est l'amour seul qui est extatique. L'amour seul me permet de sortir de moi et d'aller à la rencontre de l'autre pour que l'union avec lui soit toujours plus forte. Étant donné que l'amour est une union affective, mais on veut une union réelle. Parce que l'intelligence au service de l'amour me fait comprendre que le bien que j'aime, que le bien qui m'attire est autre que moi, et donc je dois être le plus possible en contact avec lui. Je dois être le plus possible présent à lui. C'est pour ça que l'union affective conduit vers l'union réelle. Vous voyez, le réalisme de l'intelligence au service de l'amour, là. Parce qu'au fond, on pourrait, dans un point de vue purement affectif, dire « Enfin, il suffit que je l'aime, c'est tout. » Ah non, pas du tout. Le bien vous attire et veut l'union la plus forte possible avec vous. Du fait même qu'il est mon bien. Et du fait même qu'il est capable de me perfectionner. Alors vous voyez là les deux, comment l'intelligence, condition sine qua non de l'amour, est plus que cette condition, parce qu'il va permettre à l'amour de se fortifier. C'est l'intelligence qui fortifie l'amour. L'intelligence par elle-même implique de se laisser prendre. On se laisse prendre. On se laisse attirer. Et c'est vrai, une attitude purement affective est une attitude de réceptivité. On se laisse attirer. On se laisse prendre. Et on a l'impression que plus on est passif, plus on se laissera prendre par le bien spirituel. L'amour vraiment spirituel me fait comprendre que la réceptivité n'est pas suffisante. La réceptivité va impliquer en même temps cette force extraordinaire de l'extase, où je vais vers le bien qui m'attire. Et aller vers le bien qui va dire, c'est aller à sa rencontre. Et pour aller à sa rencontre, il s'agit de mobiliser toutes les forces qui sont en moi pour aller à sa rencontre. Alors là, vous voyez de nouveau dans l'amour cet autre aspect, réceptivité et en même temps conquête. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est l'intelligence qui se met au service de l'amour et qui permet à l'amour d'aller au-devant du bien aimé, de celui que j'aime. Celui que j'aime, je le possède au-dedans de moi-même dans cette union affective, mais celui que j'aime, je veux être le plus proche possible de lui dans une union réelle. Et c'est pour ça qu'il faudra toujours l'apport de l'intelligence pour maintenir dans cet amour affectif, cette affectivité spirituelle, dans cet amour spirituel, dans cet amour du cœur, dans ce qu'il a de plus profond, il faudra toujours l'intelligence pour maintenir, au-delà de la réceptivité, cette attitude extatique. C'est très curieux que c'est l'intelligence qui permet à l'amour d'être extatique, d'aller au-devant de l'autre, en tant qu'il est capable de nous permettre. Vous voyez, et ça, c'est très curieux. Ça, nous y reviendrons parce que c'est peut-être l'aspect le plus mystérieux qui est dans l'amour. Ces deux aspects, l'aspect de force et l'aspect de vulnérabilité, l'aspect de réceptivité, l'aspect d'extase. Et au fond, nous ne saisissons jamais ce que c'est que l'amour. L'amour dépasse toute l'analyse que nous pouvons faire. L'amour est au-delà de l'analyse que nous pouvons faire. Il ne faut pas analyser ce que c'est que l'amour. L'amour nous dépasse toujours, et c'est pour ça qu'on dira que l'amour est au-dessus de tous les raisonnements qu'on peut avoir, de tous les motifs qu'on peut avoir. Quand on dit que l'amour a ses propres raisons, que la raison ne connaît pas, Pascal, quand il dit ça, mais c'est normal, puisque c'est le bien qui m'attire. C'est le bien qui suscite en moi un amour. Et ce n'est pas ce que j'ai compris du bien. Ce n'est pas ce que j'ai compris du bien. Vous voyez, la plupart du temps, on voit des quantités d'amour qui se tuent parce que l'intelligence passe avant le bien. Et on aime l'autre que dans la mesure où on le connaît. Ça, c'est l'intellectualisme forcené qui devient un rationalisme. Alors, on aime que dans la mesure où on connaît. Et aimer dans la mesure où l'on connaît, dire qu'on aime que dans la mesure où on connaît, c'est tuer l'amour. D'avoir jamais compris.